L'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans un LEM archéologique avec un entretien enregistré il y a quelques jours, donc de bonne qualité sonore. On va retrouver le centre départemental d'archéologie du Finistère qui est basé au Fou mais dont le travail s'étend sur tout le département. Aujourd'hui on peut même parler d'extension sinueuse puisqu'on se penche sur un diagnostic suivi de fouilles préventives avant des travaux pour aménager et sécuriser une route, la départementale 770 entre Saint-Éloi et Plou-Daniel. Et comme il y a eu deux temps, en 2019 le diagnostic et en 2020, les fouilles préventives, nous avons deux archéologues avec nous. Bonjour Anne Kergourlet.
Bonjour.
Et bonjour Johan Dieu.
Bonjour.
On va commencer par la dame. Alors, ce n'est pas par convention, mais c'est parce que c'est vous, Anne Kergourlet, qui avez dirigé le diagnostic avant les fouilles. Qu'est-ce que c'est un diagnostic déjà ?
On intervient généralement le service régional de l'archéologie quand il y a un projet d'aménagement. Donc là, la route, enfin la sécurisation de la RD 770, passe avant et détermine les secteurs qu'il faudra tester pour savoir s'il y a des vestiges archéologiques ou non. Et ensuite, nous, on intervient et on va sonder environ 10% de l'ensemble du projet.
Et ça se détermine en fait en... C'est une certaine surface ou c'est une certaine profondeur en fait que vous sondez ?
On sonde juste à temps d'arriver sur les premières structures. Sur les premières structures qui arrivent, on descend rarement en dessous de 50 cm.
Ouais, vous savez quand même, avant le diagnostic, que vous avez des chances de trouver quelque chose, je suppose.
Parfois, on n'a rien. Mmh. Mais vraiment, rien de rien. Et c'est arrivé. Hein, on a eu, dans des secteurs, on n'avait vraiment qu'un poteau électrique enlevé en 2012. On avait la fosse. Et c'était tout ce qu'on avait sur le secteur.
Et qui commande c'est systématique, un diagnostic, avant, dans ce genre de chantier, ou pas spécialement ?
C'est souvent en fonction des vestiges archéologiques déjà connus dans le secteur, vestiges archéologiques ou historiques. Et ensuite, c'est vraiment le SRA qui décide si oui ou non il faut diagnostiquer.
Alors le SRA, c'est Service Régional d'Archéologie.
Oui.
C'est lui qui commande toujours les diagnostics, en fait.
Oui.
Bon. Et j'ai aucune idée de combien de diagnostics sont réalisés par an dans le Finistère à peu près. Enfin, vous avez une idée de ça ?
C'est pas non plus.
Vous personnellement, vous en réalisez. Enfin, le Centre départemental d'archéologie en réalise combien ?
Entre 5 et 6, je dirais, un truc comme ça.
Ouais, entre 5 et 6.
Par an.
Depuis 2-3 ans, on est en moyenne à 5-6.
Et je suppose qu'il y a aussi un délai assez court à respecter. Enfin, un diagnostic, c'est pas censé s'éterniser.
Ça dépend, parce qu'il y a parfois des interventions qui peuvent, enfin des diagnostics qui peuvent se faire vraiment très en amont, avant le début des travaux, donc 1 à 2 ans. Et parfois, très rapidement, comme nous, là, on a fait le diagnostic en 2019, et les premiers travaux ont commencé quand moi j'étais déjà encore en diagnostic. Donc pas forcément sur les secteurs où j'étais, dans d'autres secteurs qui n'étaient pas diagnostiqués, mais les travaux pouvaient déjà avoir commencé.
Et pour vous, le diagnostic a duré combien de temps ?
On était sur 4 semaines, sachant qu'on a fait une pause au milieu à cause des accès avec les maïs et tout ça, on n'allait pas détruire les cultures.
Ouais, faut compter avec la réalité contemporaine, je suppose. Ben, on va en reparler de toute façon. Il y avait 10 secteurs à diagnostiquer. C'est pareil, comment est-ce qu'ils ont été déterminés et quelle surface ça représentait en tout ?
En tout, les 10 secteurs représentaient environ 65 000 m². Et ça a été déterminé donc, du coup, par le SRA, en fonction en particulier de l'accessibilité des parcelles et la largeur. Si les travaux impactaient que 2 mètres de large, une bande de 2 mètres de large, on n'intervient pas parce que généralement on a des godettes de 2 mètres. Enfin, du coup, moi j'avais
Les pelleteuses, vous voulez dire, elles font 2 mètres de large. Ouais. Donc si c'est plus étroit que la pelleteuse, ça ne vaut pas le coup.
Bah non.
Ouais,
non,
effectivement. Non. Très bien. Et donc, 10 secteurs. Bon, alors, je ne sais pas, est-ce que ce type de chantier... Moi, j'ai l'impression que c'est très bizarre comme chantier de fouiller plusieurs zones comme ça sur une route. Mais est-ce que c'est fréquent ? Est-ce que c'est... Enfin, comment c'est par rapport à la moyenne des diagnostics ?
C'est fonction vraiment de l'aménagement. Si on est sur une route, un gazoduc, une voie verte, une piste cyclable, on est sur du linéaire, donc il peut avoir plusieurs secteurs. Après, si on est sur un lotissement, c'est vraiment parfois une ou deux parcelles regroupées au même endroit. Donc c'est quand même un peu plus simple quand c'est regroupé au même endroit.
Et en pratique, j'imagine, ouais.
Oui.
Ouais. Et donc, souvent, quand il y a une route ou une voie de ferry à fouiller, on fait comme ça des tronçons.
En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en France, il y a deux types d'archéologie. Il y a l'archéologie programmée, sur laquelle on intervient sur des édifices, notamment, par exemple, le château de la Roche-Maurice pour ici.
Dont on a parlé la fois dernière,
voilà.
D'ailleurs.
où, en fait, on intervient sur des sites qui ne sont pas menacés, en fait, par des travaux et qui ont un projet de mise en valeur et de présentation publique derrière. Et ensuite, on a ce qu'on appelle l'archéologie préventive. Donc, c'est ce qu'on fait. Et donc, ça se présente sous deux étapes principales. C'est déjà un aménageur qui pose un permis de construire. Enfin, il a un projet, donc il dépose un permis de construire, qui passe souvent devant le service régional de l'archéologie, qui, lui, donc va prescrire d'abord un diagnostic sur l'emprise du projet, donc en fonction de la taille des parcelles, etc. Et suivant les résultats du diagnostic, donc qui sert à déterminer si, un, il y a des vestiges, deux, de quand ils datent, s'ils sont bien conservés, où est-ce qu'ils sont dans le projet, est-ce qu'ils sont en bordure, est-ce qu'ils sont en plein milieu. Et donc c'est ce qui s'est passé avec le projet de la RD 770. Donc le rapport du diagnostic passe devant une commission qui s'appelle la CTRA, qui émet un avis qui est consultatif, en fait. Et donc suivant l'avis, voilà, le service régional de l'archéologie prescrit ou non une fouille qui consiste en fait au décapage total d'une certaine partie d'une zone diagnostiquée positive.
Là, sur le cas de la départementale 770, donc ce diagnostic, comment est-ce que vous avez, enfin on comprend que vous aviez des petites pelleteuses, mais sinon, qu'est-ce que vous avez, quelle a été la méthode
Étant donné que j'étais divisée par 10 secteurs avec la route au milieu,
voilà.
Donc déjà on circulait avec la pelleteuse, parce qu'on était sur une pelleteuse à roues, donc on circulait sur la route, et le but c'était d'ouvrir, de topographier l'ensemble des vestiges.
Donc là, vous avez quelqu'un qui dessine, en fait, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, qui va venir avec sa machine relever toutes les structures. Et on va tester certaines structures. Et ensuite, je passais rarement plus de 2 jours par secteur.
Qu'est-ce que vous appelez d'avancer. Tester certaines structures ? Ça veut dire quoi ?
On va les couper par moitié, par exemple, dans le cas d'une fosse ou d'un trou de poteau, qui sont des petites structures. Dans un fossé, on va juste faire une section dedans pour avoir la coupe, voir le type de comblement, s'il y a du mobilier pour pouvoir le dater. Ou prélever des charbons, par exemple, pour faire du radiocarbone, si on n'a pas de mobilier. Et ensuite, on bouche.
Et donc, c'est rapide. Enfin, 2 jours, c'est court. 2 jours, ou ça pouvait être plus long. Là, en gros, vous restiez combien de temps par tronçon
En fonction de la taille, en fait, des tronçons. C'est vrai qu'en moyenne, c'était 2 jours. Mais sur des secteurs, par exemple, il y a un secteur 8, j'ai fait une tranchée. Donc, je l'ai ouverte, on a regardé, on a testé, topographié, et on l'a refermée dans la journée.
Et ça, vous diriez que ça suffit pour pouvoir vérifier la validité d'un endroit à fouiller ou pas ?
Oui. Enfin, je trouve que oui, ça suffit.
D'accord. Très bien, moi je vous crois. C'est vous l'experte. Nous sommes des profanes et on ne se rend pas toujours bien compte. On se dit que l'archéologie, c'est une histoire de temps long et de... Et en fait, là, ça paraît extrêmement rapide.
Il ne faut pas du tout s'imaginer que c'est l'archéologie qu'on fait en Grèce ou à l'Égypte et qu'on voit sur Arte, quoi. C'est l'archéologie préventive, et l'archéologie préventive en Europe et en Bretagne, c'est quand même bien différent. Ça ressemble plus à un chantier du BTP qu'à des fouilles au Caire.
Oui, c'est ça. Là, on en, au stade du diagnostic, on n'en est pas du tout au pinceau et au petit grattoir.
Non, du tout, non. Parce qu'on parle de pelleteuse, mais en fait, c'est carrément des pelles mécaniques qui font 21 tonnes avec des godettes de 2 ou 3 mètres. Donc, on impacte quand même sérieusement le paysage. Quand on passe et puis on fait des tranchées, voilà. Donc on descend sur ce qu'on appelle. En fait, on enlève ce qu'on appelle les stériles ou la terre végétale. En général, c'est entre 40 et 60 cm. Et on tombe sur les premiers niveaux archéologiques. Et donc après, là, c'est un peu le hasard et tout le jeu du diagnostic, hein, qui est un exercice assez difficile, si ce n'est le plus difficile en archéologie. C'est essayer de trouver, de déterminer, descendre pas trop.
Et puis pas trop casser aussi en même temps, bah oui. J'imagine.
Bah oui, parce que si on trouve des vestiges, en fait le but aussi c'est de savoir les déterminer, les cerner et puis les localiser, mais d'en garder un petit peu pour la fouille.
C'est ça.
Faut pas tout traiter dès le diagnostic.
Mais sur le terrain, vous êtes combien ? Donc on a compris, il y a vous, la chef, enfin là en l'occurrence Anne Gergourlet, la chef de diagnostic, le topographe. Et il faut peut-être parfois un expert plus spécialisé, non ? Enfin...
Non, on diagnostique généralement en terrain, on va dire à 100%, donc le topographe vient de temps en temps, on est 2. 2 à 3, là on était 3 parce qu'on était sur un type de diagnostic où il fallait aller rapidement, mais par exemple, un diagnostic que j'ai fait en début d'année, on n'était que 2. C'est largement suffisant par rapport au temps et puis au test des vestiges qu'on va faire, parce qu'on ne va pas tout tester de toute façon.
Oui, vous n'êtes pas obligé à ce stade-là d'identifier tout de suite si la céramique que vous avez trouvée est gallo-romaine ou d'âge du bronze.
Au moment de la post-fouille pour avoir quand même des idées de datation. Il y a quand même des choses qui sont assez facilement datables. La céramique, entre autres.
D'accord. Donc, vous devez être à la fois un peu généraliste quand même, et puis vous devez avoir votre permis tractopelle aussi.
Ah, c'est pas nous qui la conduisons.
On
fait appel à des...
C'était la question.
On fait appel à des boîtes spécialisées.
Ah ouais, donc vous êtes un peu plus de deux, en fait.
Oui. Ah bah, il y a le chauffeur qui va avec l'appel mécanique. C'est les conducteurs qui habituellement travaillent dans le TP.
Et il y a encore d'autres prestataires éventuels, non?
Parce qu'une fois qu'il a fini, par exemple pour un diagnostic classique sur un lotissement, donc une seule parcelle, il ouvre et il part. Et puis nous, on fait ce qu'on doit faire, tester les structures. Et ensuite, il vient juste reboucher.
D'accord, très bien. Donc, comment est-ce que vous déterminez après, une fois que vous avez fait le travail d'examen sur le terrain, après vous faites un rapport, là qui faisait quand même plus de 200 pages, tiens à préciser pour les auditeurs, et là, comment est-ce que vous allez déterminer les lieux qui méritent ou pas fouille approfondie?
C'est pas moi qui vais décider, donc je vais faire mon rapport. Je vais dire que dans tel ou tel secteur, donc c'était cas-là, il y avait ces vestiges-là qui sont intéressants. Donc il y en avait 4 qui avaient été déterminés où on avait vraiment des vestiges bien marqués, comme des poteries presque entières ou des choses comme ça. Et finalement, il y en a que 2 qui ont été fouillés. Mais c'est pas moi qui prendrai la décision.
Et qui alors décide?
L'État. Le SRA.
Le service régional d'archéologie, qui dépend de l'État. Ce n'est pas un service qui dépend du conseil régional.
Non, c'est dépend de la DRAC. Ouais.
Ok, Direction régionale des affaires culturelles. Bon, je précise, il y a beaucoup de sigles. Alors, d'accord. Le rapport que vous avez rendu, moi, j'ai l'impression qu'il y a énormément de... Alors, soit de traces, soit de mobilier. Est-ce que c'est une impression fausse? Est-ce que c'est standard ou est-ce que vous êtes plutôt contente? Vous avez trouvé beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous diriez?
Ça varie énormément. Rien que dans le diagnostic, oui, on avait des secteurs où il y avait beaucoup de choses, comme à Kerfelgar ou Saint-Éloi, qui ont été prescrits, et des secteurs où on avait vraiment juste une fosse ou un fossé qu'on n'a pas forcément déterminé. Donc non, c'est assez classique.
Ouais, c'est un résultat. Trouver autant de choses, c'est finalement assez moyen pour la surface fouillée, quoi. Enfin, diagnostiquée.
Ouais, il y a parfois des diagnostics qui sortent beaucoup plus de structures, de mobilier aussi. Non, là, c'était bien.
Alors, vous avez donc, au final, 2 secteurs qui sont fouillés ou en cours de fouille, c'est ça?
Ils sont finis.
Ils sont finis. Ils sont tous les deux fouillés. Est-ce que... Alors, vous allez me raconter chacun, parce qu'en fait, vous êtes tous les deux sur ces fouilles-là. Alors, c'est vous, Anne Carré-Courlet, vous fouillez. Alors, lequel? Secteur de Saint-Éloi?
Oui, le secteur 10, donc celui qui est le plus proche de Plouéderne, donc au sud, Landerneau aussi. Et en gros, on se trouve à côté d'une chapelle et pas loin d'une zone qui a été diagnostiquée et fouillée 2 fois par l'INRAP et où il y avait des vestiges très importants pour les périodes de l'âge du bronze et de la période médiévale.
Alors, l'âge du bronze, c'est de moins 2300, moins 800, c'est ça, à peu près?
À peu près, oui. Bon. Sachant qu'ils sont autour bronze moyen, donc 1600 à bronze final, donc 800.
D'accord.
Et nous, on avait des vestiges. Donc, au diagnostic, on n'avait pas du tout de mobilier. Donc, qui sont sortis. Donc, on s'est vraiment basé, par rapport en particulier pour les fossés, aux orientations qu'on connaissait via les fouilles de l'INRAP. Et à ce moment-là, donc déterminer déjà sur le terrain quelle période on pourrait avoir. Et à la fouille, donc, on a décapé tout le secteur qui faisait moins de 5000 m² en forme de L. Donc, pas très large non plus. Donc, voilà. Donc, on a beaucoup de fossés.
Alors, des fossés.
Des fossés.
Ah, alors, ça, c'est les fossés. Comment est-ce que vous pouvez savoir qu'un fossé date de l'âge du bronze?
Par rapport soit au mobilier qu'il y a dedans. Donc, en gros, le mobilier qui est dedans, c'est qu'il a été jeté à une période. Donc, c'est que le fossé était là.
Donc, il y a un morceau, par exemple, de céramique. On le date et, en carbone 14, je suppose. Et puis, on sait...
Par la typologie, en fait, il y a différentes formes de céramique qui sont liées, les décors et tout ça. Donc, on va dater comme ça. Ou alors, si on n'a pas de mobilier, ce qui était mon cas, par radiocarbone.
Et là, c'est quoi? C'est la terre qu'on analyse? Qu'est-ce qu'on analyse exactement?
Les charbons. On va récupérer des charbons à l'intérieur des comblements, si possible dans le fond, et pas forcément lié à des racines ou des choses comme ça. Donc il faut bien choisir ces charbons. Et ensuite, on envoie ça en laboratoire et ils nous font une datation radiocarbone pour déterminer la date de la coupe de l'arbre, en fait.
Donc là, vous aviez défaussé de l'âge du bronze ?
Non.
Non.
Ah bon. C'était l'hypothèse.
Ah, d'accord. Hypothèse, pardon.
Ouais. Hypothèse de présence d'âge du bronze. Donc, en fait, les mêmes périodes que sur les autres sites, tout de suite de l'autre côté de la route. Et donc, j'ai reçu les résultats et je n'ai pas du tout d'âge du bronze. Donc, j'ai bien du médiéval, de la période moderne également. Donc, le cadastre napoléonien, donc les fossés des talus. Et j'ai de l'antiquité. Donc, ça, c'était déjà l'hypothèse retenue, mais on est plus sur du parcellaire. Et de l'âge du fer.
Ah. Bon.
Donc, premier et deuxième âge du fer, j'ai les deux, donc moins 800 à moins 50. Donc, mais pas du tout d'âge du bronze.
Et depuis, comme vous avez fait les fouilles, vous n'avez pas trouvé de mobilier ?
Pas du tout. Donc, au diac, je n'avais pas de mobilier. À la fouille, pas de mobilier non plus.
Bon, vous êtes un peu déçu ?
Bah, c'est un peu...
frustré.
C'est un peu frustrant de devoir se baser uniquement sur les datations radiocarbone, parce qu'il peut avoir des infiltrations et... Et tout ça.
Et quelles sont les hypothèses quand même qu'on peut émettre sur ces fossés, enfin sur ces types d'occupations, si on peut en émettre déjà.
Pour les fossés, donc on avait déjà plus ou moins vu au diagnostic, on est vraiment sur du parcellaire, donc antique et.
Qu'est-ce que ça veut dire parcellaire, ouais.
Généralement, on divisait les parcelles en faisant un talus comme aujourd'hui, en fait. Hein, des fossés et le talus au milieu.
Ça serait des fossés qui détermineraient des zones, en fait, c'est ça
voilà,
vous voulez dire
des parcelles, oui.
D'accord. Donc d'agriculture, plutôt.
Agriculture ou oui, élevage. Enfin, c'est lié vraiment à l'agraire, aux activités oui, agricoles. Donc j'ai ça pour l'Antiquité, probablement pour l'époque médiévale, et bon, pour l'époque moderne, avec donc des fossés qu'on voit déjà sur les cadastres napoléoniens. Et pour l'âge du fer, donc je dois avoir du parcellaire également, mais j'ai donc en limite vraiment de décapage, donc je n'ai pas tout, je ne peux pas plus dire si c'est un petit enclos ou vraiment une zone clôturée ou palissadée, mais j'ai pour le premier fer, donc moins 800 à moins 400, j'ai un système de double fossé avec des piquets ou des poteaux un peu plus importants et une entrée.
Ça pourrait être une petite fortification
Plutôt une petite zone pour déterminer, soit pour clôturer les bêtes, soit pour une activité artisanale. C'est pas gros.
Ah, c'est pas énorme, d'accord.
Ça reste quand même assez léger.
Donc c'est pas un système de défense, enfin, a priori.
Non.
Bon, très bien. Et alors vous, Johan Dieu, donc vous avez fouillé un peu plus loin. Enfin, c'était à quelle distance vos deux sites là, de...
À 5 km au plus au nord, je pense.
Ouais.
Un truc comme
et
ça.
Quand est-ce que vous avez fouillé ?
Du 17 août au... il y a deux semaines.
Ah ouais, donc tout frais là ?
Oui.
Alors qu'est-ce que vous aviez, vous ?
J'avais quelque chose d'un peu plus conséquent, parce que le décapage, en fait... Donc le décapage, c'est le principe d'enlever la terre végétale et stérile, descendre sur les premiers vestiges archéologiques, faisait entre 1 hectare 2 et 1 hectare 5. Donc ça commence à faire.
Vous étiez combien du coup pour
On était 6.
Ah oui.
6 pendant 2 mois et demi, dont 2 semaines de décapage avec les pelles mécaniques. Et du coup, il y a des zones sur lesquelles je suis intervenu qui n'avaient pas pu être diagnostiquées par Anne en 2019.
Ah oui, pourquoi ?
Il y avait des arbres, il y avait une plateforme pour accueillir les caravanes, et puis il y avait une parcelle qui était en maïs, et voilà, on ne pouvait pas rentrer dedans avec un engin mécanique.
Ça, c'est ça qui est intéressant aussi avec le diagnostic, comme c'est un peu rapide, parfois ça va vite,
ouais.
On a des contraintes. Et puis parfois, vous êtes pas, en fait, les propriétaires peuvent ne pas vous céder l'accès, c'est ça ? Moi j'ai appris ça, je pensais que c'était obligatoire, qu'on devait se plier au souhait de l'archéologue, mais non, pas du tout.
Non, du tout.
Dommage.
Puis on est contraint aussi par les limites du projet, c'est-à-dire que si on n'a pas le droit de dépasser.
Ah oui, si c'est voilà. Fixé, si la zone est fixée, vous ne pouvez pas aller à côté, gratouiller un peu, voir.
Non. Okay. Interdit.
Interdit. D'accord. Et là, en fait, avec les fouilles, quand on passe à la catégorie fouilles préventives, on peut élargir éventuellement la zone ou par rapport au diagnostic ou pas ?
Même pas. Là où j'ai fouillé, donc à Ploudaniel, Carfel-Garbillan, donc à 2 km au sud du bourg de Ploudaniel, ils vont faire un énorme rond-point. Et donc élargir aussi la voie qui va permettre d'accéder à ce rond-point. Et donc en fait, je ne peux pas dépasser de toutes les zones qui sont intégrées au projet, qui vont devenir des routes, hein, clairement. Et donc, on a décapé, ouais. La...
Mais la surface était quand même meilleure, comme vous dites, par rapport, que par rapport au diagnostic. Voilà, vous aviez accès à plus de terrain.
Bah, le diagnostic, on fonctionne par tranchée. D'accord. Donc, on est limité, en gros, à la largeur du godet. On peut faire quelques fenêtres complémentaires pour élargir et avoir une vision un peu plus générale, plus grande. Alors que là, la fouille, concrètement, on décape l'intégralité. Donc, j'ai décapé 1,2 hectare. Quoi. Donc...
Alors, qu'avez-vous trouvé?
Eh ben, pas mal de choses.
Alors, quoi?
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on décape ou même quand on fait un diagnostic, on relève absolument tout. C'est-à-dire que toutes les anomalies de terrain, qui sont souvent matérialisées donc sur le terrain, par une couleur, une texture différente du terrain naturel, qui là, pour le cas présent, est du, en fait, c'est du limon, mais qui est issu de la dégradation du granit. Un limon un peu argileux, jaune-orangé. Et donc les structures, elles apparaissent brunes, voire noires pour certaines.
Et quand vous dites structure, c'est en général, c'est quoi? Ça a été creusé ou c'est...
Alors, je peux même parler d'anomalie de terrain, en fait, concrètement, parce qu'on relève absolument tout. Et quand on parle de tester, c'est qu'en fait, on relève à la fois les racines, les terriers. Et le but du jeu, c'est de déterminer ce qui est anthropique, donc de l'action de l'homme, ou complètement naturel.
Ça ne doit pas être évident.
C'est pas toujours facile, non?
Oui, parce qu'un simple arbre tombé, donc ce qu'on appelle un chablis, en fait, oui. c'est répertorié, c'est ça, alors que ça n'a aucun intérêt archéologique.
Enfin, ah, ça peut avoir un intérêt archéologique,
ah, oui.
Ouais.
Ah bon,
ouais.
Ah bon, autant pour moi.
Faudra inviter Stéphane Blanchet de l'INRAP pour en discuter, il aime bien ça.
D'accord.
D'autant que c'est la personne qui a fait les deux grosses fouilles pour l'INRAP qui se sont trouvées à côté de Saint-Éloi.
Mais bon, donc, ouais, mais vous relevez les anomalies.
Voilà, on relève toutes les anomalies et en fait, on a à peu près, c'est comme si on avait un calque avec toutes les périodes de l'histoire, qui ont occupé le terrain, enfin l'emplacement où on a décapé, en même temps. Le but du jeu, c'est donc, un, de déterminer ce qui est anthropique, et de deux, de démêler tout ça. C'est-à-dire de savoir qu'est-ce qui est, en gros, sur le cadastre napoléonien, qu'est-ce qui est, en gros, de 1819, hein, du 19e, plus récent, parce qu'on a des maisons des années 50, des années 60, ou même une, sur le cas présent, qui avait été détruite il y a 3 ans.
La vie ne s'est pas arrêtée.
Et non. Et ce qui est médiéval, âge du bronze, gallo-romain, etc., etc.
Voir encore plus loin, c'est possible, ça serait... j'ai cru voir dans le diagnostic, à un moment, vous aviez trouvé un silex taillé, une petite lame, un gargourlet, c'est ça?
Oui, il y avait ça, mais c'est surtout que je ne connaissais pas trop ce qu'on appelle les pièges de chasseurs. Et en gros, dans le secteur 6, que j'interprète comme peut-être quelque chose de l'âge du fer, en discutant entre autres avec Stéphane Blanchet et puis ensuite en ayant plus le temps de faire des recherches, on est sur des piégeages qui seraient beaucoup plus anciens, donc mésolithiques ou néolithiques. Donc on est vraiment entre moins 12 000 et moins 2 000. Donc ouais. Voilà.
Mais ça ne concerne pas votre secteur de Carfel-Garbillon, Yohann Dieu, non?
Alors moi, sur mon secteur, enfin en gros, sur le secteur 2 du diagnostic, donc Carfel-Garbillon, on a la majorité de l'occupation, c'est donc on a tout le parcellaire, donc les fossés, talus, fossés, qui apparaissent sur le cadastre napoléonien, donc du 19e siècle. Mais on a également une grosse occupation du haut Moyen-Âge. Donc pour l'instant, je ne sais pas exactement...
Donc au Moyen-Âge, pour dire aux auditeurs, c'est en gros de l'an 500 à l'an 1000.
C'est même, je me précise un petit peu plus, et je pense qu'on est entre le 8e et le 11e siècle. Okay. Après, voilà, je pense qu'il y a plusieurs états sur ces 400 ans qui me restent à déterminer, mais ça sera pour l'année prochaine.
Et c'est quoi comme trace, alors, à part des... Bon, alors, il n'y a pas que des fossés, là, je suppose.
Alors, j'ai un énorme fossé. Voilà, qui lui est un enclos et à mon avis qui est défensif parce qu'il fait 2,40 m de large et il fait entre 1,60 m et 2,20 m de profondeur.
Et à cette époque, on était plutôt sur des châteaux forts en bois encore.
Ouais, à cette époque-là, on est on arrive sur les premières modes castrales, surtout pour le 10e et puis 11e siècle et même un peu plus tard. À cette époque-là, on est surtout sur la fin de l'Antiquité et puis on essaye de de trouver d'autres places un peu plus... d'autres méthodes d'occupation. Quoi, voilà.
Donc on est en tâtonnement, mais vous ne trouverez pas grand-chose de plus qu'un fossé. Fin...
Si, en fait, j'ai ce qu'on appelle des maisons... Enfin, dans le jargon archéologique, on appellera ça des fonds de cabane, mais en réalité, c'est des fosses qui sont quadrangulaires, d'une profondeur variable entre des fois 5 cm, parfois 20, et avec ce qu'on appelle les trous de poteaux. Donc tout ça, c'est en creux, hein, y a pas de construction voilà, en pierre ou quoi que ce soit pour l'instant. Et donc les trous de poteaux qui sont placés dans les angles et puis sont un peu sur tout le pourtour, au milieu, etc. Et donc c'est ça qui supporte les charpentes. Ce qu'il faut imaginer, en fait, c'est des constructions en terre et bois. Donc en matériaux périssables.
En torchis, quoi, en fait, c'est ça.
C'est un peu ça, clayonnage, torchis, enfin voilà. Donc c'est une architecture qui ne laisse pas beaucoup de traces, surtout quand les terrains ont été cultivés. Souvent c'est brassé, et puis avec les sols qu'on a en Bretagne, qui sont un petit peu acides, tout ce qui est en matériaux périssables, ça a tendance à disparaître très vite. Donc on les retrouve pas forcément. Après, par comparaison, puis analogie avec d'autres sites ailleurs en France, puis dans le monde, même. Dans d'autres régions de Bretagne, on peut savoir et déterminer quel est le type d'occupation.
Est-ce que vous avez trouvé du mobilier, vous, alors ?
Oui, alors essentiellement de la poterie, donc la céramique, qui est, qui est en cours de nettoyage actuellement. Pour le Moyen-Âge, donc je pense entre le 8e et le 10e siècle pour ce qui nous concerne, et énormément aussi de céramiques qui se sont retrouvées dans des fossés qui, je pense, sont parcellaires, mais datées de l'âge du bronze moyen, donc qui se rapprochent de ce qui a été trouvé 5 km plus au sud.
Donc si on veut dessiner un peu une sorte d'histoire de chronologie de l'occupation de cet département d'Al 770 qui n'existait pas à l'époque, bien sûr, il n'y avait même pas de voie romaine, hein, je précise. Si, il y en a une, j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvée.
En fait, je pense que la départementale 770, elle a perduré dans le paysage pendant très longtemps. Bon, je pense qu'elle est attestée déjà à l'époque romaine, je pense qu'elle a perduré jusqu'au Moyen-Âge et jusqu'à aujourd'hui. Elle a sûrement changé un petit peu de tracé au cours du temps, hein, c'est même quasiment sûr. Mais ce n'est pas impossible qu'elle soit déjà là depuis la période gauloise.
Et donc, c'était âge du bronze, âge du fer, c'était plutôt agricole, on va dire, c'est ça. Et puis oui. Après, c'est devenu peut-être un gros regroupement de villages, enfin, non ?
Là où j'ai un grand enclos, hein. J'ai pas sa superficie là, parce que je l'ai pas calculé, mais le fossé, en fait, sur une des portions repérées, il fait 120 mètres de long, ce qui est déjà pas mal. Et donc, en fait, j'ai l'occupation à l'intérieur de l'enclos, avec au moins deux maisons, et puis des puits, et puis toutes ces choses-là. Et j'ai l'extérieur de l'enclos avec ce que je pense être des traces de sillons agricoles. Mais là, tout le but du jeu dans les prochains mois, ce sera de déterminer s'ils sont modernes ou de l'époque médiévale, voire plus anciens.
Donc ça serait plutôt tendance ferme fortifiée, alors, si on devait qualifier ce type d'occupation.
C'est toute la question. Je ne sais pas vraiment ce que c'est comme type d'occupation. D'autant que je ne sais pas non plus si le fossé, il est 100% médiéval ou s'il n'est pas plus vieux. Parce que toute la poterie que j'ai retrouvée dans ce fossé, en fait, elle est dans les 60 premiers centimètres. Ce qui n'est pas énorme quand le fossé fait 2,20 m. Donc c'est pas impossible qu'on ait déjà une occupation plus ancienne, qui ait marqué le paysage, et qu'au Moyen-Âge, c'était toujours visible, ils se sont plus ou moins réinstallés à côté, voire dedans.
Donc vos fouilles préventives sont terminées, donc là vous êtes encore en cours d'analyse. Jusqu'à quand l'analyse des résultats ?
Là, avec le confinement, du coup, on va travailler de chez nous. Donc, y a déjà aussi à reprendre les plans, et après avoir pris les plans, et peut-être refaire des datations si je peux. Ensuite, on sera dans la rédaction. Donc, moi, c'est vrai qu'en l'absence de mobilier, c'est beaucoup plus rapide. Il n'y a pas toutes ces études, ces rameaux en particulier à faire, qui peuvent prendre du temps ou d'autres études, hein, parce que... ils peuvent avoir d'autres études. Donc c'est vrai que moi, l'année prochaine, je pense que mon rapport sera sorti.
Et vous, Johan ?
Moi, en fait, lundi prochain, je repars sur une autre fouille au sud Finistère, à Bénodet. Pour un mois, moi, j'ai le droit de sortir.
Quelle chance !
Moi, le rapport, il va commencer qu'en 2021, d'autant que je pense demander des études complémentaires sur les comblements terminaux des puits que j'ai fouillés, notamment la palynologie, la xylologie.
Alors, palynologie, c'est les pollens, et xylologie, c'est les bois, c'est ça ?
C'est les bois, la carpologie, les graines.
Ah oui, merci.
Et potentiellement de l'entomologie, si je trouve un spécialiste. Mais qui sont
des insectes.
C'est ça, qui sont un peu rares en France.
Ah oui. Bon, vous nous tiendrez au courant tous les deux de vos résultats, prochaines fouilles, et puis vous reviendrez.
Sans problème.
Merci beaucoup.
De rien, au revoir.
Au revoir.
Et vous pouvez bien entendu réécouter cet entretien et les autres entretiens avec le Centre départemental d'archéologie sur le site internet de Radio Évasion.
L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, Véronique Museau.
Dans un instant, la deuxième partie de l'EM avec notre rendez-vous mensuel sur l'Europe, un nouveau jeu.